On reçoit aujourd'hui Renaud Dely à l'occasion de la publication du livre « Histoire secrète du Front National ». C'est publié chez Grasset. C'est un livre qui retrace un petit peu l'histoire des deux carrières, celle de Bruno Maigret et celle de Bruno Le Pen au sein du Front National, enfin leurs deux carrières et puis et l'affrontement qui a lieu au Front National. Est-ce qu'on pourrait faire un petit peu, pour commencer, l'histoire du Front National à destination des 8-12 ans? Est-ce qu'on pourrait donner des éléments un peu de base sur qui sont ces deux personnages, quel est leur parcours et qu'est-ce qui fait que ces deux personnages qui ont des parcours complètement différents vont se retrouver pendant un temps à être vraiment ensemble dans des intérêts communs?
Je ne suis pas persuadé que ce soit un sujet à mettre entre toutes les mains et sûrement pas entre celles des 8-12 ans, mais on peut essayer effectivement de tracer un portrait assez sommaire des deux parcours et des deux extrêmes droites qu'incarnent chacun de ces leaders. Qui ont effectivement des parcours qui sont des personnages et qui représentent des filiations politiques et idéologiques relativement différentes. On a d'un côté Le Pen, qui est le vieux tribun, chef charismatique de l'extrême droite, qui a ressuscité ce courant politique qui avait disparu au fil des années 50, des années 60, bref, qui avait eu beaucoup de mal à se relever évidemment de la libération et du comportement d'un certain nombre de ses membres pendant l'occupation. Le Pen donc réussit à ressusciter un courant profondément protestataire, démagogue, xénophobe, mais qui n'est pas idéologiquement très structuré, je dirais, qui s'incarne d'abord et avant tout dans sa personne. Il est le chef charismatique, ce qui est un phénomène très important de l'extrême droite. On suit un chef, il y a un côté discipline, on se reconnaît dans un chef, mais ce courant est somme toute relativement peu structuré au milieu des années 80, lorsqu'il apparaît électoralement. En 84, c'est là où le Front réussit son premier gros score national aux européennes de 84. Et à ce moment-là, il y a un décalage entre la réalité politique du Front National et le fait que ce mouvement est encore très peu structuré, il y a encore très peu de militants, il y a peu de fédérations qui fonctionnent, il n'y a pas un programme vraiment cohérent qui existe, et puis son succès électoral déjà, puisqu'il rassemble déjà plus de 2 millions de voix aux européennes de 84. Et c'est à ce moment-là que justement, Maigret, qui est issu d'une autre filiation historique de l'extrême droite, d'une autre extrême droite, rejoint le Front National et va y amener ses idées, ses cadres, ses amis, son organisation, ses méthodes, etc. Lui, Maigret, on peut dire que c'est un produit, je pense, d'une mouvance qu'on appelle sommairement par le vocable de nouvelle droite. En fait, la nouvelle droite, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est né à la fin des années 60, au milieu des années 60 même, et qui, tout au long des années 60 et 70, a essayé de repenser l'extrême droite, a essayé de repenser le programme, le projet politique de l'extrême droite, dans des clubs relativement confidentiels et élitistes, du type le GRES, puis le Club de l'Horloge, qui en est plus ou moins directement issu. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui ont décidé de militer sur la scène électorale, mais qui ont décidé d'essayer de repenser en coulisses un projet politique radical, théorisé, etc. Et Maigret, il a été formé, il a été amené à la politique par le Club de l'Horloge et par des gens comme Jean-Yves Le Gallou, Jean-Claude Bardet, etc., qui sont toujours aujourd'hui ses plus proches collaborateurs, qui sont issus de cette mouvance. Et donc c'est cette filiation-là qui théorise encore une fois un projet radical, qui, par exemple, le fondement même de ces gens-là, c'est toute la question identitaire. Pour eux, la question identitaire, ce qu'ils appellent la question identitaire, bon, ils ont une obsession identitaire qui consiste, par exemple, à considérer que le mélange des races, la mixité, le métissage, ce sont des fléaux, des pollutions qui menacent de remettre en cause une mythique pureté d'une race, de la race blanche, etc. Et donc c'est sur ce discours-là que Maigret rejoint le Front National et qui va y amener d'ailleurs, quand on regarde l'évolution du discours politique du Front National depuis les années 80, on peut nettement constater qu'à partir du début des années 90, au moment où Maigret et ses amis commencent vraiment à avoir beaucoup de points de vue du Front National, ils radicalisent l'idéologie du Front.
Et ils vont structurer la pensée et ils vont structurer le discours du Front National de manière un peu plus importante que effectivement on se rangeait. Enfin, d'après ce que j'ai compris, on se rangeait avant l'arrivée des Maigret, on se rangeait plutôt aux humeurs de passage du leader charismatique qui pouvait changer de point de vue. C'était assez fluctuant.
C'était pas très cohérent, ouais, le Front National. C'était pas très le Front jusqu'à l'arrivée de Maigret, des Maigretis, de Le Gallou, de Blot, etc. Qui Blot d'ailleurs qui est resté chez Le Pen aujourd'hui. C'était pas très cohérent sur le plan idéologique, sur le plan politique. Il n'y avait pas un programme. Et d'ailleurs, très longtemps, les observateurs, les journalistes ou les adversaires politiques du Front National disaient mais le Front National, il pense pas, il a pas d'idée de toute façon, il a pas d'idée, pas de programme. Sous-entendu, c'est pas si dangereux que ça. C'est pas dangereux parce que ils n'ont pas de propositions, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de programme. Ils agitent deux ou trois fantasmes, deux ou trois délires sécuritaires, xénophobes, racistes, etc. Ce qui était vrai au début. Mais à partir du moment où Maigret, en 85, il adhère au Front National à l'automne 85, et dans la foulée, soit Jean-Yves Le Gallou le précède quelque peu, Yvan Blot va les rejoindre quelques années plus tard, ce sont ces gens-là qui vont offrir au Front National une doctrine. Une doctrine cohérente, radicale, et c'est effectivement eux qui vont apporter du contenu politique, du contenu idéologique. Et à partir du début des années 90, le Front National, là, devient un mouvement, une formation politique qui fabrique de la politique, quoi, qui fabrique du discours et qui, derrière les incantations du chef, les incantations, les numéros, les provocations, etc., du chef, a aussi un projet, et c'est en ce sens qu'il devient plus dangereux, à mon sens, à partir du début des années 90, c'est qu'il a aussi un projet, des propositions, etc. On se souvient, par exemple, des 50 mesures sur l'immigration proposées par Maigret en 91, qui sont des mesures absolument ahurissantes pour le moindre observateur sensé, mais qui sont proposées par Maigret et par ses amis dans le cadre d'un projet très cohérent, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce raisonnement de polytechnicien, méthodique, etc., qui fait que pour Maigret, 1 plus 1 égale 2, etc. Donc il aligne des mesures absolument ahurissantes qui aboutissent à un projet cohérent.
Hubert. Donc jusqu'en 85, le FN arrive à se démerder sans Maigret et les courants qui drainent. Dreux, 84, la perte électorale. Comment se passe, quels sont les contacts et comment se passe concrètement l'arrivée de Maigret dans l'appareil de Le Pen?
En fait, Maigret, et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'on a un peu le sentiment, quand on regarde le résultat des européennes la semaine dernière, qu'il est un petit peu revenu à la case départ pour ça, ce qui est un petit peu ennuyeux pour lui. Maigret, il a fait un bref passage au RPR avant, il a fait 3 ans au RPR, 79 et 82. Pour autant, il n'a jamais été gaulliste. Hein. Il ne s'agit pas de se faire des illusions, ce n'est pas un ancien gaulliste authentique, etc. Jamais de la vie, c'est un passage. C'est quelqu'un qui a une vraie volonté de pouvoir, une vraie volonté de puissance, une vraie volonté de pouvoir, issu d'un milieu grand bourgeois, polytechnicien, etc. Et donc, il voulait faire de la politique avec, et on le voit toujours aujourd'hui, ça continue de scander son discours, la volonté de conquérir le pouvoir et d'avoir des responsabilités. Là aussi, c'est sans aucun doute une différence avec Le Pen, qui n'a pas du tout le même rapport au pouvoir et la même obsession de conquérir le pouvoir. Il a plus la volonté de gérer un capital électoral, financier aussi, matériel, ce qui est très important pour Le Pen. Donc Maigret, se voyant barré au RPR, ensuite il va tenter une aventure solitaire, personnelle. En 82, il crée un truc qui s'appelle les CAR, les comités d'action républicaine, qui sont des clubs d'une droite dure, censée, la droite vient de perdre le pouvoir, il faut essayer de radicaliser le pouvoir, parce que le projet de la droite, parce que les socialo-communistes, pour reprendre leur terme, viennent d'accéder au pouvoir, et pour eux, pour la droite, c'est un drame, etc. Et il tente une aventure personnelle avec les comités d'action républicaine, et il échoue, en fait, en 84, au bout de 2 ans, où il a ramé tout seul ou presque, avec Jean-Claude Bardet, qui est son allié, son plus proche collaborateur de toujours. Au bout de 2 ans, ils s'aperçoivent de l'échec, ils essayent de monter une liste aux élections européennes de 1984. Ils n'ont pas les moyens financiers de la monter, ils n'ont pas les réseaux suffisants, ils n'ont pas tout simplement aussi le chef charismatique susceptible de porter cette liste, le chef, la tête de liste. Et il s'avère qu'en 84, c'est justement le moment où Le Pen perce et réussit sa percée et atteint 11% des voix, 10,5. Et donc c'est justement devant, en fait, c'est simplement par nécessité, si j'ose dire, enfin c'est par nécessité, c'est une espèce de compromis pragmatique, que Maigret va décider de rejoindre Le Pen. Il n'y a pas du tout de fascination chez Maigret pour le personnage de Le Pen. C'est simplement qu'il s'est rendu compte aux européennes de 84 que l'espace qu'il espérait occuper, cet espace d'une droite ultra dure et même d'une extrême droite, qui est censé s'ouvrir à la droite de la droite à ce moment-là, du fait de la présence de la gauche au pouvoir, etc., etc., et bien cet espace, manque de bol, il s'est fait doubler par Le Pen au dernier moment. Et donc c'est purement par pragmatisme que Maigret décide de se mettre au service de Le Pen, donc vont s'engager dès le début de l'année 85, dès l'été 85 plutôt, Enfin, ils sont dans une phase accélérée à ce moment-là, des négociations. Maigret va voir Le Pen avec, il a quand même quelques centaines de militants avec lui, quelques cadres, quelques centaines de cadres, et va se vendre en fait à Le Pen. Enfin, il va obtenir un échange, il va être intégré au Front National en échange. Il aura une tête de liste dans l'Isère, et comme à l'époque, en 86, les législatives auront lieu à la proportionnelle, il sera élu député de l'Isère à ce moment-là. Donc c'est un compromis tout à fait pragmatique, parce que chacun des deux a besoin de l'autre en fait. Et c'est vraiment par pragmatisme que Maigret rejoint le Front National.
Un des enjeux pour Le Pen d'intégrer quelqu'un comme Maigret, c'est aussi de contrecarrer le pouvoir grandissant de gens comme Stirbois, le grand ami des platanes, un écologiste avant l'heure, et d'autres forces au sein du Front National qui risqueraient de lui faire de l'ombre. Et l'ascension très rapide de Maigret, c'est ce que vous racontez dans le livre, ça s'explique aussi par ça.
Tout à fait, il va se servir, Jean-Marie Le Pen va se servir de Bruno Maigret pour contrecarrer l'influence, le poids de Stirbois. Il a toujours appliqué, bon c'est déjà une méthode assez classique dans tous les partis politiques quels qu'ils soient, c'est une méthode encore plus classique à l'extrême droite parce que l'extrême droite, il y a une vraie, et on le voit bien aujourd'hui, il y a une vraie nature qui tend au morcellement de l'extrême droite. L'extrême droite unie, c'est très très rare. L'extrême droite, c'est une telle nébuleuse de familles idéologiquement proches, mais différentes sur des points, je ne sais pas, entre les cathos et les païens. Ils ont de multiples sujets pour s'écharper, ce qui fait qu'il y a toujours besoin de maintenir une unité, d'essayer de maintenir une unité entre des clans, des familles différentes. À partir de là, il faut toujours éviter que l'un prenne le pas sur l'autre. Et donc, à partir du moment où Stirbois, qui est à l'époque secrétaire général du FN, devient le numéro 2, comme ensuite Maigret a pu réclamer le statut numéro 2 d'ailleurs, devient le numéro 2 qui contrôle l'appareil, les cadres, etc. Le Pen prend peur, d'autant que Stirbois, dès 81, au moment où Le Pen n'a pas réussi à se présenter à la présidentielle parce qu'il n'avait pas pu rassembler les 500 signatures, dès 80, au lendemain de cet échec, Stirbois a menacé de prendre le contrôle du front. Il a failli évincer Le Pen à ce moment-là, parce qu'il tenait les cadres, il tenait l'appareil. Et donc, Le Pen a peur, est inquiet de la montée en puissance de Stirbois, qui, à la suite du succès électoral de Dreux que vous évoquiez tout à l'heure, a une popularité très importante au sein du Front National, auprès des militants. Stirbois, c'est celui qui, en fait, a obtenu le premier succès, c'était en septembre 83 à Dreux, le premier triomphe électoral qui fait que c'est... En fait, il menace son aura et auprès des cadres, menace celle de Le Pen. Et donc, Le Pen va effectivement tout de suite se servir de Maigret, dès 86, parce qu'en plus, Le Pen a un besoin, on le disait tout à l'heure, il y a un manque de cohérence, un manque de contenu. Et Le Pen lui-même n'est pas un idéologue forcené, capable de pondre des tonnes de notes, d'argumentaires, etc. Alors que c'est justement là la qualité de Maigret. Donc Le Pen a un besoin absolu de Maigret, qui est celui de structurer, de coordonner, de donner du contenu au mouvement. Et en plus, stratégiquement, tactiquement, Maigret permet à Le Pen de s'assurer de son autorité sur Stirbois. Donc il y a un jeu, ce côté divisé pour mieux régner, grand classique de Le Pen. Le Pen l'appliquait avant et va continuer de l'appliquer après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Maigret va devenir trop fort au sein du parti, en 95, il va pousser Bruno Gollnisch pour essayer de servir de Gollnisch pour contrecarrer Maigret. En vain d'ailleurs, parce que Gollnisch avait sans aucun doute n'avait pas les mêmes qualités et la même popularité au sein de l'appareil que Maigret.
Et donc, jusque-là, il n'y a pas encore d'affrontement entre Le Pen et Maigret. Et Maigret va peu à peu prendre en main une partie de l'appareil, tout en s'affrontant à Stirbois, puis en succédant à Stirbois. Comment ça se passe? Il y a toute cette espèce d'appareil dans l'appareil qui petit à petit se met en place. On voit l'expérience d'un journal qui s'appelait
Le Français. Ouais.
Le Français. Toutes ces structures, je ne comprends pas bien, j'ai lu, je ne comprends pas bien comment Le Pen accepte de laisser se développer ça au sein du Front, ou est-ce qu'il n'a pas le choix?
C'est un petit peu les deux. Le Pen fait preuve, je pense, d'une grande... il est très sûr de lui. Le Pen ne craint pas, et jusqu'à la fin de l'année dernière, il n'arrivait pas à craindre vraiment d'être déboulonné de la tête du Front National. Donc il est très sûr de lui. Il laisse Maigret monter des réseaux que Maigret, très prudent, met immédiatement au service de Le Pen et au service du Front National. En apparence, ces réseaux qui s'appuient sur, par exemple, une structure qui s'appelle la Délégation Générale, qui est au sein du Front National, est en charge de la propagande, de la communication, du programme, etc., qui est vraiment l'instance de réflexion du Front National, qui produit toutes les campagnes, etc., etc., qui a un poids considérable. Maigret l'apprend, enfin, Le Pen plutôt l'offre à Maigret, parce qu'il n'a personne d'autre à qui l'offrir en fin 88. Enfin, et en plus, c'est exactement le moment où il s'agit de contrecarrer Stirbois qui va se tuer quelques semaines plus tard, ce qui va remettre en cause l'équilibre, d'ailleurs, pensé par Le Pen. Donc Le Pen l'offre à Maigret. Maigret s'en sert immédiatement pour y placer ses hommes. C'est plus proche, tous ses plus proches, de Jean-Yves Le Gallou à Yvan Blot, en passant par Jean-Claude Bardet, Damien Barillet, etc., rejoignent la délégation générale et vont se mettre immédiatement à produire des textes, des argumentaires, des programmes, etc., etc. Mais Maigret, à l'époque, fait preuve de... Il est discipliné et fidèle pour deux. Il y a une anecdote assez amusante, par exemple. Il n'y a jamais eu aucun lien d'amitié personnelle, etc., entre Maigret et Le Pen. C'est absolument pas les deux personnages. Tout le monde s'en rend compte de jour en jour, sur le plan humain. Simplement, ils ne se ressemblent absolument pas, etc., etc. Et pourtant, quand Maigret va avoir son premier enfant, qu'il appelle Audouin, d'ailleurs, c'est en 93 ou 14, il va demander à Le Pen d'être le parrain de son fils, alors qu'il n'y a absolument aucune amitié ou lien personnel entre eux deux. Mais c'est purement tactique chez Maigret, c'est toujours cette volonté de coller au père pour mieux ensuite le dépouiller de son parti.
Hubert.
Justement, pour placer un peu les rapports de force, du gros rapport de force qui va avoir lieu à partir de là, à partir du moment où Maigret fait le programme politique de Le Pen en 88, quels sont les réseaux dont dispose Le Pen et quelles sont grosso modo les raisons dont dispose Maigret en état des forces à ce moment-là, les personnes
Le problème de Le Pen, c'est qu'il n'a pas un réseau très cohérent, très soudé. Il a un certain nombre de familles et de personnages qui sont à son service, qui lui sont fidèles, mais qui ne sont soudés que par une chose, justement, et qui, peu à peu, ne vont être soudés que par une chose grandissante, qui est la haine de Maigret et des maigrettistes, ce qui va conduire aussi à l'explosion. C'est-à-dire qu'on a, derrière Le Pen, qui on a ? On a, par exemple, la famille des catholiques traditionnalistes, qui est dirigée par Bernard Anthony, alias Romain Marie, qui gère une multitude d'associations, du centre Charlier au comité chrétienté solidarité, etc., etc. Donc toute cette famille maurassienne, pétainiste, vichysoise, etc., et puis pétrie d'un catholicisme, alors soit carrément schismatique pour certains, des lefévristes, des gens qui ont suivi Mgr Lefebvre au moment du schisme de 88, soit des gens qui restent fidèles à Jean-Paul II, mais qui ont une pratique, enfin qui sont en l'occurrence à Saint-Nicolas, par exemple. Cette famille-là, elle est influente, relativement influente à l'extrême droite sur le plan intellectuel. Politiquement, elle n'a pas des cadres très efficaces. C'est plus une famille qui fournit des journaux, des choses comme ça. Bon. Ces gens-là sont derrière Le Pen. Bernard Anthony en tête. On a tous les anciens des guerres coloniales, mais par exemple Roger Olyndre, des figures comme ça assez célèbres au Front National à l'extrême droite, Popeye, c'est son surnom là-bas, très fier d'être un ancien d'Indo, d'Algérie, etc. etc. Mais ça, ce ne sont pas des gens qui produisent de la politique aussi, ce sont des gens qui sont aux côtés de Le Pen parce que Le Pen a été lui aussi, à leurs yeux, un héros des guerres coloniales, etc. et tout, donc pour prendre une revanche, etc. Mais ce ne sont pas des gens politiquement très porteurs d'avenir, quoi. Évidemment, ce sont des gens qui ont un monde de retard et qui vivent toujours dans l'espoir de rebâtir un monde mythique, etc., qui serait celui des colonies, par exemple. On a toute une ribambelle de gens qui ont suivi Le Pen au travers de toutes ces aventures groupusculaires dans les années 60, la campagne Tixier-Vignoncourt en 65, des gens comme Jean-Pierre Revaux, comme Dominique Chaboch. Donc des gens qui ont connu toute cette extrême droite balkanisée et qui n'ont eux aussi qui ne sont mus que par un sentiment qui est celui de la revanche sur la perte de l'Algérie, sur, pour les plus anciens, sur Vichy évidemment, et qui vivent toujours pour nombre d'entre eux, et on les retrouve à la fondation du Front National. On retrouve beaucoup d'anciens collaborateurs, etc. Et en face, mais ces gens-là donc sont structurés simplement par le charisme de Le Pen, mais pas par un projet politique cohérent, porteur d'avenir. Et en face, Maigret, lui, monte une famille, pour l'essentiel issue de la Nouvelle Droite, issue du Grèce, du Club de l'Horloge, des gens qui produisent des argumentaires du projet, du programme, etc., et qui se mettent à son service, et au service de son ambition, parce qu'il a une ambition absolument dévorante, Maigret, et ça, tout le monde s'en est aperçu depuis amplement. Et donc, ce sont des gens beaucoup plus soudés, beaucoup plus proches les uns des autres. Yvan Blot et Bardet, ils se connaissent depuis 30 ans, ils travaillent ensemble depuis 30 ans, etc. Même chose avec Le Gallou. Donc, il y a une plus grande cohérence des forces, sans aucun doute, derrière Maigret. Et la seule cohérence que vont trouver les gens qui restent derrière Le Pen, tout au fil des années 80 jusqu'à... Enfin, tout au long des années 90 jusqu'à l'explosion, c'est, et peu à peu, cette, et elle va monter en puissance peu à peu, c'est la haine des maigretistes, justement, parce qu'ils sont illégitimes, parce qu'ils ne sont pas considérés, ils n'ont pas connu, par exemple, toutes ces défaites de l'histoire, ils n'ont pas connu, ne sont pas d'anciens collaborateurs ou des au Front National, c'est plutôt mal vu.
Mal vu de ne pas être un ancien collabo.
Ouais, ou de ne pas être un ancien OAS, etc. Ça, ce sont des titres de gloire, l'extrême droite, d'avoir connu ça.
Parce que ce qui caractérise un peu tout ce groupe Maigret, c'est que c'est des gens qui ont une telle soif de pouvoir qu'ils ont rapidement intégré des cabinets ministériels, des équipes, etc. Comment est-ce que Le Pen, qui veut arriver au pouvoir lui, mais qui ne veut pas bosser avec des gens qui ont été au pouvoir avec d'autres partis, comment est-ce que ça se fait qu'il les accepte quand même ?
Parce qu'à l'époque, il n'a pas le choix. Dans les années 80, au milieu des années 80, il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'effectivement, ces gens-là, Blot, Le Gallou, Maigret, ce qu'ils ont appris aussi au sein de la Nouvelle Droite, au sein du Club de Roche, c'est l'entrisme. Leur méthode de faire la politique, leur méthode politique, c'était l'entrisme, c'était le noyautage. Et effectivement, Maigret, on l'a dit tout à l'heure, rejoint le RPR, Le Gallou va au Parti Républicain, Blot va au RPR. Il n'y en a pas l'ombre de... Enfin, le Gallou, pour autant, n'est pas giscardien, et Maigret n'est pas gaulliste, etc. Mais ils font de l'entrisme, ils se répartissent les partis de droite, et ils essayent d'accéder au plus haut niveau possible afin d'évoluer sur le projet politique et de radicaliser le projet politique de la droite. C'est comme ça que Blot va se retrouver, par exemple, au cabinet de Pascan en 86, c'est en fait le rédacteur des lois, des premières lois sur l'immigration, les premières lois Pascua version 86, c'est Blot, comme le projet de loi sur la réforme du code de la nationalité que finalement la droite ne va pas mener au bout, mais c'était Blot aussi. Donc ils influent de l'intérieur comme ça. Et quand ils rejoignent le Front National au milieu des 80, effectivement, Le Pen, lui, a toujours exécré et exècre toujours les gens qui passent par les cabinets ministériels, qui vendent à ses yeux, qui vendent le RAM pour un morceau de pouvoir, etc., ou une cocarde et une voiture. Mais pour autant, il a absolument besoin de gens qui font la politique, il en est dépourvu. Là, c'est pas Roger Olyndre ou Bernard Anthony qui vont pondre un projet politique susceptible de rassembler des millions de gens. Ce sont des gens qui sont totalement ancrés dans un passé révolu. Donc il en a besoin, et c'est lui aussi par utilitarisme. Maigret rejoint le Front par pragmatisme, et Le Pen l'accepte et s'appuie sur lui par utilitarisme. Et en fait, des deux côtés, il y a une telle différence entre les deux que cette différence se conjugue dans une grande complémentarité pendant des années, jusqu'à ce que les rivalités d'ambition et de pouvoir soient telles que la cohabitation devienne impossible. Quoi.
On fait une petite pause et puis on se retrouve. Thank you. Voilà, toujours dans l'émission de Ralph Front sur Fréquence Paris Pluriel. On vient d'écouter El Paso del Ebro. C'est sur un disque produit par Nato, nos amis de Nato. Et le disque s'appelle Buenaventura Durruti. C'est magnifique. On est toujours aujourd'hui avec Renaud Dely, qui est journaliste à Libération, mais par ailleurs qui vient de publier aux éditions Grasset une histoire secrète du Front National qui retrace l'histoire des désaffrontements et de la scission au sein du Front National. Donc on en était arrivé un petit peu à la période où Maigret est à l'apogée et a réussi à devenir numéro 2 dans l'organigramme du Front National. Et c'est là où ça commence à se gâter, puisque aux élections de 1995, on va l'accuser d'être en partie responsable de la non-progression ou de la très faible progression de Le Pen. Renaud Dely, vous interprétez ça comme un tournant dans...
Moi, je pense qu'on ne l'a pas vu à l'époque, mais je crois qu'en fait, l'élection présidentielle de 1995, c'est effectivement un tournant dans la vie interne du Front National, parce que on a vu un Le Pen à 15%, ce qui était effectivement beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour autant, en 7 ans, il avait gagné que 0,6 points, il était à 14,4 7 ans avant. Et au sein du Front National, ce score de 15% qui était énorme, etc., mais a été vécu comme une déception, en fait. Il a été vécu comme une déception par Le Pen lui-même, et puis par les Le Penistes, qui ont profité de cette occasion à ce moment-là pour dire le responsable de ce piétinement, si j'ose dire, de ce plafonnement, c'est celui qui a tout pris en main, qui était le directeur de la campagne présidentielle, c'est Maigret. Il saisit de l'occasion pour tenter une première contre-attaque pour essayer d'amoindrir le pouvoir et l'influence de Maigret sur le front. Ils vont bénéficier, sur le plan conjoncturel, d'un petit événement qui est la démission de Karl Lang, du secrétaire général. Karl Lang démissionne du secrétaire général au lendemain de l'élection présidentielle.
À partir de là, est-ce qu'on sait pourquoi ?
Officiellement par lassitude, ça faisait 7 ans qu'il était au même poste et il voulait changer d'air, etc. L'explication tient moins la route maintenant, puisqu'il a repris le même poste. Même s'il est officiellement délégué général, en fait, il a repris depuis la scission les mêmes fonctions de secrétaire général, les mêmes compétences au sein du Front National. Donc évidemment, on n'a pas manqué de l'interroger sur cette légère contradiction. Parce qu'il y a 4 ans, il était censé avoir marre d'exercer ces fonctions qui sont très, très comment dirais-je, austères. Enfin, il s'agit juste d'organiser les fédérations, etc. Et tout.
C'est pas très jouissif.
Oui, non. Officieusement, je pense qu'il en avait marre d'être doublé, dominé par Maigret sur tous les plans. Il avait Karl Lang, c'est quelqu'un qui est assez peu charismatique, qui. Jamais entraîné la fougue militante du Front National et qui en gros collait les timbres pendant que Maigret assurait tout le reste. Quoi. Donc je pense qu'il y a eu une vraie lassitude plutôt de se sentir vraiment, il n'a jamais été un rival à la hauteur de Maigret. D'ailleurs c'était une déception de Le Pen puisque toujours ce principe de diviser pour mieux régner, il comptait un petit peu sur Karl Lang pour freiner l'ascension de Maigret. Et donc il démissionne et tout au long de l'été 95 jusqu'à l'automne, jusqu'au mois d'octobre, il y a une compétition interne absolument ahurissante au sein du Front National. Il y a déjà des premiers coups bas, des rivalités, des pétitions, donc des choses qui n'émergent pas encore à la surface, comme on a pu le voir à la fin de l'année 98, qui ne sont pas aussi spectaculaires mais qui témoignent déjà du climat très nauséabond à l'intérieur du Front entre les différents clans qui commencent à rivaliser. Et en l'occurrence, tous se battent pour essayer d'obtenir la place de secrétaire général et pour contrecarrer l'ascension de Maigret. Et finalement, Le Pen va se résoudre, d'ailleurs c'était pas son premier choix, et Le Pen va se résoudre à nommer Gollnisch. Et Gollnisch, il a une mission très claire, Bruno Gollnisch, il a la mission de contrecarrer l'influence de Maigret et de mettre un frein à son ascension. Et ça va plutôt bien se passer au début pour lui, et puis très vite, enfin, à partir du début de l'année 97, les événements vont s'enchaîner à une cadence folle. Le gros déclic pour Maigret, c'est évidemment la victoire de Vitrolles en février 1997. Ça change.
C'est la première victoire du Front National à la majorité absolue, puisque les autres mairies avaient été conquises à faveur d'une triangulaire. Là, ils font 52%.
Oui, tout à fait. C'est la première fois au municipal, parce qu'ils avaient déjà gagné des législatives. Ils en ont gagné deux ou trois. Il y a eu Tirebois qui avait gagné, Marie-France Tirebois qui avait gagné une partielle. Mais au municipal, c'est effectivement la première fois qu'ils remportent une ville à majorité absolue. C'est un impact considérable au sein du Front. C'est-à-dire que Maigret devient... entre guillemets, un héros pour beaucoup de militants. En plus, Maigret, avec son côté, comment dirais-je, polytechnicien, huissier de justice, ce côté un peu austère, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas un personnage très très rigolo, avait la réputation de pondre des notes, etc., mais d'être incapable de serrer des mains sur les marchés ou d'aller coller des affiches. C'est effectivement pas sa passion, mais là, pour le coup, d'une part, il le fait un petit peu, et d'autre part, surtout, il a gagné. Donc, il gagne ses galons de militants de terrain aux yeux des militants du Front. Ce qui est important dans la mystique d'extrême droite, où le militant est un combattant, est un guerrier, etc. Il y a une vision très virile et très militaire de ce qu'est la politique. Donc, ça change complètement son statut au sein du Front National. Même si on l'oublie trop souvent, mais c'est pas lui qui a gagné en fait, puisque c'est son épouse. Mais évidemment, c'est évidemment perçu comme une victoire politique de Maigret lui-même, et en l'occurrence à juste titre, puisqu'elle ne jouait d'autre rôle que celui de potiche et de porte-voix de son mari. Et puis dans la foulée, il y a le congrès de Strasbourg à la fin du mois de mars, qui d'abord est l'objet d'une grande mobilisation. On l'a vu à l'extérieur du congrès contre le Front National, mais à l'intérieur, c'est l'objet d'une grande mobilisation maigretiste, si j'ose dire. Et il y a Maigret, lors de l'élection, la seule élection entre guillemets démocratique au sein du Front National, c'est celle des membres du comité central. En fait, c'est la seule fois où c'est la seule occasion qu'ont les cadres du FN de dire qui ils préfèrent, sans se faire foutre à la porte dès le lendemain matin. Et en l'occurrence, Maigret est élu haut la main en tête du comité central du Front, loin devant Gollnisch et autres. Et c'est là qu'on prend conscience de sa popularité auprès des cadres du Front. Et c'est là que Le Pen, surtout, en prend conscience. Et c'est en fait à partir de 1997 qu'il commence à s'inquiéter de ça.
C'est à la même élection où la fille de Le Pen n'est pas élue.
Effectivement, la Benjamine, la plus jeune des trois, il y a plein, lors de ce congrès de Strasbourg, fin mars 1997, il y a plein de petits épisodes comme ça qui d'un seul coup font prendre conscience à Le Pen que les événements tournent mal et qu'on risque de le déposséder de sa chose, qu'on risque de le déposséder de son parti. Et il y a notamment le fait que Marine Le Pen, la plus jeune de ses trois filles, qui n'est pas du tout militante du Front, d'ailleurs, enfin, elle partage les idées, mais elle n'a pas le parcours militant de sa sœur aînée, notamment Marie-Caroline. Elle ne s'est jamais présentée nulle part, elle n'a pas fait de campagne, etc. Et tout. Mais son père, parce qu'elle s'appelle Le Pen, a voulu la propulser au sein du comité central. Et ça paraissait évident, elle était candidate au sein du comité central, et le nom de Le Pen étant ce qu'il est à l'extrême droite, elle devait passer haut la main. Et drame familial, Jean-Marie Le Pen finalement constate que sa fille est battue. Et parce que, évidemment, les maigrettistes étaient bien décidés à marquer aussi le coup, et parce que, comme elle n'était pas militante, etc., mais simplement la fille de son père, elle jouissait pas d'une grande popularité auprès des cadres. Et donc elle est battue, ce qui fait que Le Pen entre dans une rage folle. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, il va essayer d'expliquer à quelques journalistes qu'en fait c'est une erreur informatique qui fait que sa fille n'est pas élue. Et puis comme ce parti est quand même, il y a quand même des roues de secours pour le chef, il nomme une liste par-delà l'élection, il peut nommer 20 personnes de plus 15 jours après au comité central, et donc évidemment là il repêche sa fille. Mais c'est quand même une grosse humiliation qui est tout à fait significative et symbolique de la façon dont Le Pen peu à peu perd la main à la tête du Front National.
C'est aussi à ce moment-là qu'apparaît un fossé entre Le Pen et Maigret. À ce moment, grosso modo, c'est aussi les législatives de 1997. Maigret vient de voir sa femme gagner à Vitrolles, et Le Pen, en plus, brutalise la candidate socialiste sur le marché à Mantes-la-Jolie. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment la différence de personnage que c'est vraiment au grand public.
Oui, tout à fait. Le législatif de 1997, c'est en très peu de temps, en 4 mois en fait, à partir de Vitrolles, Strasbourg, législatif, c'est le troisième gros coup, où d'une part, Maigret fait la campagne, il assure la campagne, parce que Le Pen commet une erreur politique de débutant, si je veux dire, c'est de peur de perdre. Le Pen se retrouve en fait sur la défensive depuis les 1997. Il sent peu à peu le Front National lui échapper et se maigrétiser de plus en plus. Et de peur de perdre, eh bien Le Pen, alors qu'il ne l'a jamais fait à l'exception d'une fois aux législatives de 1967, ne se présente pas, ne concourt pas à l'élection législative de 1997.
Et ça, aux yeux des militants du Front, aux yeux des sympathisants, des militants, des cadres du Front, ça passe très très mal, parce que toujours ce côté, cette mystique guerrière de ce qu'est le militantisme politique, le chef qui se dérobe, le chef qui refuse l'obstacle et qui refuse de mouiller le maillot pour essayer de même de perdre haut la main. Le Pen dit toujours « je préfère être vaincu sur mes idées qu'élu avec celles des autres ». En l'occurrence, il n'a même pas choisi d'être vaincu sur ses idées. Donc ça, ça passe pour un forfait, c'est une énorme erreur, qui va accentuer par contre-coup la popularité de Maigret au sein du parti, parce que Maigret lui fait une campagne, d'une part il fait la campagne nationale, puisque le chef ne se présente pas, c'est Maigret qui assume pour la première fois en fait, dans les faits, le discours national du Front, sur les médias, un peu partout, c'est lui qui fait des meetings partout à travers la France, c'est en fait la première campagne de l'après-Le Pen avant l'heure, et puis d'autre part il fait une campagne locale, très dure aussi, où il est battu, parce que la situation de la circonscription de Vitrolles n'est pas la même que celle de la commune de Vitrolles, puis parce que son adversaire aussi n'est pas le même. Mais c'est un moment où on se rend compte que Le Pen, encore une fois, est sur la défensive, où Maigret avance ses pions peu à peu, et même sa défaite aux législatives de 97 passe pour un, si j'ose dire, presque un fait d'armes au sein du Front, quoi.
Alors on va continuer à parcourir à grands pas cette histoire de récente au sein du Front National. On peut peut-être passer à ce qui va déclencher la crise. C'est justement suite à ce dont on parlait, Hubert, l'agression de Le Pen d'une candidate socialiste, l'invalidation de Le Pen pour les élections. Et là, Le Pen propose de faire le même coup que Maigret a fait à Vitrolles, c'est-à-dire de présenter sa femme. On peut dire que c'est là l'événement. Est-ce que la crise aurait eu lieu de toute façon ou cet événement le provoque plus qu'autre chose ?
Je pense qu'elle aurait eu lieu de toute façon. Je pense qu'on était rentré dans une logique où de toute façon elle aurait eu lieu à un moment ou un autre parce que les deux logiques étaient inconciliables. En revanche, c'est très clairement l'élément déclencheur, c'est l'étincelle. Ça accélère la crise, quoi. Ça, c'est clair que ça l'accélère et ça la fait se produire à ce moment-là. Effectivement, inéligible à la suite de son agression à Mantes-la-Jolie. Le Pen, tout de suite, n'a qu'une inquiétude, il n'a qu'une crainte, il ne veut absolument pas voir Maigret à la tête de la liste des élections européennes. Ça serait, entériner définitivement le fait que Maigret serait un jour le successeur que de lui laisser la tête de liste aux européennes. D'autant que le contexte, à l'époque, il y a un peu plus d'un an, était quand même très favorable au Front National. À la suite des élections régionales de 98, de mars 98, on a vu la droite peu à peu céder par pans entiers à la tentation du Front National. Les européennes, une forte sensibilité euro-critique, euro-sceptique, europhobe à droite, qu'on a vu d'ailleurs se manifester il y a 10 jours dans le vote Pasqua notamment, elle existait, elle laissait espérer un bon score au Front National. Et donc raison de plus pour Le Pen de ne pas céder la tête de liste aux européennes. Alors c'est vrai que politiquement au sein du Front, le seul susceptible de remplacer Le Pen à la tête de la liste, évidemment, c'était Maigret. Il pouvait pas proposer la place à Gollnisch, à Martinez, etc. Il n'y avait aucune logique politique interne. Le vrai numéro 2 qui s'était imposé comme tel, c'était Maigret. Et donc, pour y échapper, il sort ce drôle de lapin de son chapeau qui génie Le Pen, qui... la pauvre n'a absolument jamais été militante, reconnaît à peine sa gauche de sa droite et n'a jamais fait de politique.
Son mari
son ancien mari, son premier mari d'ailleurs, Jean Garnier, me racontait que c'était lui qui l'emmenait voter. Parce qu'ils
On peut dire deux mots sur Jean Garnier.
Oui, Jean Garnier, qui est un personnage... assez spécifique, c'est son premier, c'est l'ancien mari de Jeannie Le Pen, puisque ils ont divorcé en 84, Le Pen a rencontré ensuite lui, Le Pen a séparé, enfin c'est plutôt elle qui est partie d'ailleurs de
Pierrette Le Pen
dont tous les amateurs
de lui se souviendront. Gardien
souvenir ému. Et donc ces deux amants Pen se sont rencontrés ensuite et se sont mariés en 91. Et en l'occurrence donc Jenny, elle avait épousé toute jeune, c'était une petite, une jeune bourgeoise qui a jamais fait d'études, etc., qui a toujours vécu dans un milieu, dans une espèce de cage dorée, etc. Elle avait épousé Jean Garnier, homme d'affaires qui a d'abord eu des affaires florissantes avant d'avoir de gros problèmes financiers, et notamment qui a été mis en cause il y a à peu près 2 ans. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours d'une part des relations tout à fait avouables et d'autre part des projets économiques, enfin des projets d'entreprise tout à fait sains. Et en l'occurrence, il a été mis en cause pour avoir, avec l'un de ses associés, pour avoir découvert, enfin pas découvert, mais plutôt tenté de commercialiser un carburant, une essence fonctionnant à l'eau, en fait, qu'il a vendu à Elf. Et il y a beaucoup d'argent qui a disparu dans la nature, un certain nombre de procédures judiciaires en cours. C'est une histoire assez
elle
complexe,
presque aussi belle que les affaires des avions renifleurs.
Ah, ouais, absolument. Enfin, pour l'instant, il y a plein de procédures en cours, et en plus, Garnier a la réputation pas usurpée d'être très procédurier. Donc, il faut mieux attendre la fin avec lui, parce que c'est du genre à déclencher un nombre de procédures considérables pour défendre ce qu'il considère être son honneur, alors que c'est quelqu'un qui a effectivement des pratiques politiques et économiques pas toujours très claires. Et en l'occurrence, donc, pour en revenir à la crise du front, parce que là, c'était une parenthèse, Jean Garnier n'est absolument pas intervenu dans la crise et dans la scission du Front National, à ma connaissance. Et pour en revenir à Jani, effectivement, Le Pen sort Jani. Maigret, évidemment, ne peut accepter cette manipulation pour deux raisons. D'une part, parce que c'est quand même... Il le prend mal parce que c'est à lui que la place est censée revenir, etc. Et que c'est une évidence politique en termes de rapport de force interne et externe aussi vis-à-vis de l'extérieur. Puis d'autre part, c'est vrai que c'est un gros risque politique électoral parce que, évidemment, Le Pen met en avant le fait que Maigret a proposé la tête de liste à Vitrolles, a donné la tête de liste à Vitrolles à sa femme Catherine. Il fallait voir comment se déroulait la campagne là-bas. Catherine Maigret n'a pas ouvert la parole, n'a pas ouvert la bouche une seule fois toute seule de toute la campagne municipale de Vitrolles. Son mari faisait campagne à sa place. L'encadrait, parlait à sa place, etc., etc. Rien à voir, évidemment, avec une campagne nationale où il s'agit de faire des grands meetings régionaux à travers la France, où il s'agit d'assumer des passages télé, des passages radio, etc. Donc c'est sûr que l'expérience était un petit peu... semblait un peu hasardeuse. Et il y a chez Le Pen une double volonté, je pense, dans le fait de proposer sa femme à la tête de liste, enfin, de soumettre cette hypothèse, de l'avancer peu à peu, d'en jouer de cette hypothèse. D'ailleurs, il joue avec les nerfs de Maigret en même temps, et ça va fonctionner très très bien. C'est-à-dire que cette hypothèse, il l'avance, et puis il la recule, il en parle au conditionnel, puis il fait comme si c'était sûr, pendant à peu près près de 6 mois, pendant 4-5 mois. Et donc c'est une façon aussi de pousser Maigret à se dévoiler. Maigret, évidemment, saute tout de suite, ne peut pas laisser passer cette occasion et tout de suite réclame la tête de liste. Et là, Le Pen prend définitivement conscience des ambitions de Maigret. Et c'est clair que là, Maigret est obligé d'avouer, d'assumer le fait qu'il veut être le chef à la place du chef, si je veux, au moins cette fois-là. Mais ce qui, évidemment, sous-entend que pour l'avenir, il entend l'être aussi. Et puis, d'autre part, ça manifeste, ça témoigne un autre aspect symptomatique de Le Pen, tout à fait significatif, qui est le fait qu'il considère sans aucun doute, et on l'a vu tout au long de la crise, et on le voit de plus en plus aujourd'hui, on l'a vu tout au long de la crise du front, on le voit de plus en plus de jours et de semaine en semaine, c'est qu'il considère que le Front National, c'est sa chose. Quoi. Le Front National, ça n'existe pas hors du nom de Le Pen. On l'a vu sur des questions matérielles, financières, etc., etc. Le FN, c'est Le Pen, point barre, il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est aussi c'est politiquement significatif. Et je pense que à partir de là, Maigret prend aussi conscience, et en ce sens, la scission du front était aussi significative, que Le Pen se soucie fort peu de l'avenir du front après lui.
Et peu ou prou, au même moment que le lapin Jani, il y a aussi l'affaire du shadow cabinet. À un moment donné, Le Pen dit, voilà, on va, sous prétexte de prendre le pouvoir un jour peut-être et tout, on monte un cabinet... tu peux en parler plus.
Oui, alors ça, c'est une idée récurrente chez Le Pen. Il en a déjà parlé il y a une dizaine d'années, etc. Il le ressort souvent. Parce qu'en fait, la stratégie de Le Pen vis-à-vis de Maigret, à partir du printemps 98, il y a un petit peu plus d'un an, après les régionales, lorsqu'il sort le lapin Jani dont on parlait, sa stratégie, c'est non pas d'exclure Maigret. Il ne veut pas virer Maigret tout de suite. Et il ne pense pas d'ailleurs que Maigret va partir. Il ne veut pas virer Maigret et les siens. Ce qu'il veut, c'est le marginaliser, le rocardiser, dit-il. Les lepénistes parlent de la rocardisation de Maigret. Il veut faire à Maigret ce que le Mitterrand a fait à Rocard. Donc il veut le marginaliser, ce qui signifie le ramener au même rang qu'une vingtaine d'autres dirigeants du Front. Et donc, comment est-ce qu'il va tenter de faire ça? C'est Maigret s'étant approprié au fil des années les principales compétences dont on parlait tout à l'heure, du Front National, les principales compétences politiques, programmatiques, etc. Il va essayer de créer d'autres structures de façon, d'une part, à détourner les moyens financiers, matériels du Front National, qui sont assez considérables, pour qu'ils soient utilisés ailleurs, et puis, d'autre part, de faire monter d'autres gens et de dépouiller peu à peu Maigret de ses compétences. Et le Shadow Cabinet, le gouvernement fantôme que Le Pen crée, le pré-gouvernement qui donne à Jean-Claude Martinez, il a cette vocation-là, avec en plus un côté très, très lepéniste, pour le coup, qui est qu'on se réunit à l'hôtel Crillon dans des salons avec des apparats, des dorures, avec un huissier à l'entrée du salon qui crie le président Le Pen quand Le Pen arrive, etc. Donc, on mime, quoi. On joue au gouvernement. C'est vraiment, on joue à être président. Mais il a cette vocation-là, d'essayer de marginaliser Maigret. Ouais.
Comme au Sénat, hein. C'est une espèce de maison de retraite où on joue à être un parlement. On va avancer un peu rapidement là sur la crise, parce qu'il y a quelques autres sujets dont on voudrait parler avant de terminer.
On arrive donc en 2020. qu'est-ce qui se passe?
La crise, au moment où elle a lieu, pour en venir, peut-être on va sauter quelques étapes, au moment où elle a lieu, quels sont les rapports de force et comment tout ça éclate en manière simple, si c'est possible?
Pour
l'éclatement.
En essayant d'être bref. Donc cette stratégie de Le Pen, c'est de marginaliser Maigret. À partir de là, il va remonter peu à peu, il va se rapprocher de l'entourage de Maigret. Et le facteur déclencheur de la crise, dès l'automne, dès le mois d'octobre, en gros, Maigret sait qu'ils vont au clash et que ça va péter. Peu à peu, il se rapproche des plus proches collaborateurs de Maigret. Et puis, fin novembre, Le Pen décide, comme ça, subitement, tout ça est mûrement réfléchi, mûrement préparé. Il décide de licencier plusieurs des plus proches collaborateurs de Maigret. Et là, le système Maigret, ce réseau dont on parlait tout à l'heure, il est touché au cœur parce que c'est Nathalie Debaille, quelqu'un qui travaille avec lui depuis 15 ans, c'est Hubert Fayard, le premier adjoint à la mairie de Vitrolles, etc. etc. Et il y avait d'autres licenciements, un type qui s'appelle Denis Daude, qui s'occupe de la formation des militants, d'autres licenciements qui étaient préparés. Et à partir de là, de toute façon, Maigret sentait depuis le mois de septembre que la crise devenait inéluctable, donc avait préparé ses batteries. L'hypothèse de réclamer un congrès anticipé avait déjà été soulevée. C'est vrai que c'est une idée de Serge Martinez à la base, qui était un ancien lepéniste, qui a été déçu par le président Le Pen, pour reprendre ses termes. Parce que c'est quelqu'un qui a un rapport très affectif avec Le Pen, c'est un peu son père, etc. Donc il a été déçu, donc il s'est rapproché de Maigret, et puis il a vu que Le Pen voulait marginaliser Maigret, et donc il a soumis l'idée de préparer un congrès, de proposer un congrès extraordinaire. Dès début novembre, elle est en place, cette idée. Et puis Maigret va se saisir de ses licenciements, deux personnages assez emblématiques au sein du Front, parce que c'est très vieux militant, depuis 20 ans, etc., et très connu, pour déclencher la crise. Il y a le fameux Conseil national du 5 décembre 1998, où toute la journée, à la Maison de la Chimie, les deux clans s'étripent, manquent d'en venir aux mains. Il y a d'ailleurs quelques baffes qui sont échangées, il y a des hurlements, des insultes, etc. En plus, ce qui est amusant, c'est que les maigrettistes ont pris soin d'enregistrer ce Conseil national. Donc, on a tous récupéré, d'une part, de très nombreux témoignages. En plus, ce qui était amusant, c'est que nous, les journalistes, on était dans la rue. On n'avait pas le droit d'accéder à la salle. On était dans la rue, mais on entendait, d'une part, on entendait les hurlements, d'autre part, on voyait les gens sortir, certains en pleurs. Enfin,
qui bouffilaient après les bandes.
Et puis certains nous racontaient, etc. Et puis ensuite, la bande a circulé et effectivement, on était plusieurs à récupérer la bande de l'enregistrement de cette journée qui est absolument ahurissante. Enfin, où Le Pen est hué par ses troupes, il est hué, insulté, etc. Et donc, il sent le navire qui prend l'eau de toutes parts. Et c'est vrai qu'il y a Le Pen chancelle toute la journée.
Si un jour tu cherches une radio pour diffuser ça, on est preneur.
Ah, c'est assez spectaculaire. Et puis, à partir de là, le rapport de force, eh bien, Maigret s'est assuré sans aucun doute, mais on le voit dans la façon dont se déroule la crise ensuite au fil du mois de décembre, du mois de janvier, il s'est assuré la majorité des cadres. Donc les deux tiers à peu près des secrétaires fédéraux partent avec lui, parce que ce sont des gens, soit des gens qu'il a nommés, soit des gens qui considèrent que c'est lui le plus compétent, etc. Et puis c'est aussi sont aussi des gens qui considèrent, pour reprendre le thème de campagne de Maigret, que c'est lui l'avenir, l'avenir du front. C'était à peu près le seul argument de campagne qu'il avait pour se démarquer de Le Pen, c'était son âge. Quoi. Et il s'en sert énormément en interne. Donc c'est vrai que les cadres, les deux tiers des secrétaires départementaux, plus de la moitié des conseillers régionaux, il y en a 275 au total, il y a à peu près 150 conseillers régionaux qui partent avec Maigret, et puis tout ce qui est militant plutôt jeune, en règle générale, plutôt actif et efficace, partent avec Maigret. Et il reste à Le Pen une coquille vide, en quelque sorte. Et c'est un peu ce qu'on a vu se dérouler ensuite au fil de la campagne des européennes. D'un côté, un appareil qui fonctionne et qui produit un discours politique, et de l'autre côté, une coquille vide. Mais ce qui est assez amusant, et tant mieux, si j'ose dire, c'est que c'est la coquille vide qui récupère encore le plus d'électeurs. Sur le plan électoral, c'était pas tout à fait la même, la répartition n'était pas la même.
Alors avant de venir au résultat des élections et à la suite de cette crise, je propose qu'on écoute un peu de musique de jeunes et puis on se retrouve dans 3 minutes.
Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches et le plus souvent lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme les filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promène, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous nos discours finiront par je t'aime. Vienne, viens alors, vienne l'âge d'or. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile les jours de grand vent, les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs, dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous nos discours finiront par je t'aime. Vienne, vienne alors, vienne l'âge d'or.
C'était joli mot, mais avec une reprise de la chanson de Léo Ferré, L'âge d'or. On est toujours avec Renaud Dely qui vient de publier Histoire secrète du Front National chez Grasset. Alors autour de la table, tout le monde ne l'a pas lu, je n'aurais dénoncé personne. Mais peut-être dire deux mots de ce livre. Alors là, on a pendant une petite heure à peine survolé l'histoire de cette scission, parce que c'est assez complet. Il y a 300 pages, il fait, comme dirait Pivot, au moins 500 grammes. Combien ça coûte d'ailleurs ? 120 francs ? 120 francs. Juste, moi j'ai trouvé que c'était vachement comme manière d'écrire. Alors là, pour le coup, pour la forme, ça ressemble à moitié à un récit, à moitié à un polar. Quoi. J'ai dit, on rentre dans une intrigue avec des personnages, des constructions. Il y a peut-être, à ceci près, qu'il y a un peu de fil, il y a un peu des caractères dans les personnages plus définis. Mais je sais pas vous, pour les autres qui avaient lu, moi j'ai eu l'impression.
Sur France Culture.
non, j'ai eu l'impression un peu de lire un polar. Bon, d'accord, à la différence du polar, c'est qu'il n'y a aucun héros positif dans cette affaire. Mais
Puis il meurt pas à la fin, alors c'est pas marrant. Moi j'aime bien les polars où il meurt à la fin.
Non, mais il y a quand même quelques morts, Stirbois, tout ça. Non,
c'est vrai.
Pour ceux qui l'ont lu, qu'est-ce que vous en avez pensé, Marianne ?
Il y a plus que Stirbois. Hein, il y a l'autre là, qui s'est fait flinguer. Là, comment il s'appelle ?
Parle dans le micro.
Bernard, je sais plus comment, là, qui était très proche de Le Pen aussi au début des années 80.
À la fin des années 70, il y a eu Duprat, François
voilà,
Duprat.
Voilà, François Duprat, Duprat ouais.
Qui est mort dans un attentat. Ouais.
Puis moi, j'aime bien la photo de la couverture. Je trouve qu'elle elle dit bien ce que ça veut dire. Mais si, je l'ai lu. Non, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était assez jouissif à lire. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gentils, quoi. Mais c'est assez marrant parce qu'effectivement, on suit bien tout. Et puis, on suit bien cette sorte d'intrigue. Ouais, enfin, ça se lit comme un roman.
T'es le nouveau Balzac, hein, Renaud.
L'éventuel côté romanesque, tout le mérite en revient uniquement aux personnages qui ont mis beaucoup du leur pour rendre effectivement cette histoire un peu plus palpitante.
Tu ne démérites pas, il y a beaucoup de gens qui écrivent, on en lit pas mal justement dans cette émission, des gens qui écrivent des bouquins sur l'extrême droite et sur l'histoire de l'extrême droite. On rentre moins, quoi. Je veux dire, ça a plus un côté académique d'une espèce de roman, de récit universitaire. Enfin, moi, j'ai trouvé ça relativement intéressant. Mais justement, à force de vivre avec des personnages comme ça qui sont un principal centre d'intérêt, c'est-à-dire l'extrême droite, dont le moindre élément, la moindre information peut t'intéresser, tu es à la recherche de ça. Comment est-ce que ça rend pas un peu frappé, quoi, d'avoir comme principale source d'intérêt des gens qu'on n'aime pas ?
Et ça fait comment, Alfron
Ah, bonne réponse. Non, parce que ce qui fait un grand intérêt du livre, à mon avis, encore un avis de lecteur, c'est toute la source d'informations qui sont des informations confidentielles, etc., qui sont données dedans. Donc, je vais pas te demander comment tu les as vues, parce que
c'est vrai que pour répondre un peu plus sérieusement, c'est vrai que c'est un rapport un peu particulier entre quelqu'un qui est journaliste à Libé. Puis des responsables et des militants et des cadres du Front National, forcément, il n'y a pas de lien de connivence, d'amitié, quoi que ce soit. C'est des rapports à la fois, évidemment, purement professionnels. J'ai besoin de les voir et la base de mon métier, c'est de voir ces gens-là et de les faire parler de toute façon. Donc, j'ai besoin de les voir et je les fréquente beaucoup, etc. C'est vrai qu'il y a un petit côté obsessionnel dans le côté, le fait que c'est quand même pas un milieu comme un autre, c'est pas un milieu ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sont des gens qui sont mus pour la plupart par des sentiments politiques, religieux, philosophiques ou autres très particuliers, dont certains de ces sentiments tournent quasiment à l'obsession et qui voient le monde à travers une grille de lecture qui est quand même... pour le moins particulière, violente, radicale, etc. C'est un monde à part, mais c'est un monde justement pour expliquer ce qu'est la réalité, la vérité de ce monde-là, on n'a pas d'autre moyen que de les fréquenter. C'est vrai que c'est un peu plus fatigant ou usant, au bout de quelques années, moi ça fait 5 ans que je les fréquente assidûment, que de s'occuper d'autres secteurs journalistiques plus communs, quoi.
Et ils acceptent facilement quand tu leur demandes de leurs nouvelles ou...
Ça dépend desquels. Ça dépend desquels, ça dépend quand, ça dépend comment. C'est toujours un rapport à la fois professionnel et puis un petit peu, effectivement...
Parce qu'en plus, Libé, c'est une de leurs bêtes noires, donc ils savent...
A priori, oui, ils sont pas, on n'a pas beaucoup d'atomes crochus personnels. Donc l'avantage, en fait, ce qui est plus facile, c'est que souvent le danger pour un journaliste, c'est d'avoir justement une certaine connivence avec ses sources, une certaine amitié, etc. Là, c'est un danger que je ne cours pas. donc, en fait, c'est relativement facile pour ça. Il n'y a pas de... ce qui est plus difficile, effectivement, c'est qu'il y a un rapport d'hostilité qui ne vient pas de moi, qui peut venir de... Enfin, ils peuvent me considérer comme une part responsable de ce rapport-là, du fait de ce que j'écris. Mais en revanche, dans mon comportement et dans la façon dont j'essaie de travailler honnêtement. Ils savent que je ne suis pas de leur camp, mais j'essaie de travailler honnêtement. Donc, par exemple, je n'ai jamais rien fait micro caché, en me faisant passer pour un autre, en employant ce genre de méthodes qui, à mon sens, ne sont pas tellement journalistiques. Ils peuvent être des méthodes militantes ou autres, mais qui ne sont pas des méthodes journalistiques. Donc, j'essaie de faire mon travail honnêtement. Certains le reconnaissent que on défend pas, c'est le moins qu'on puisse dire là aussi, les mêmes valeurs, le même projet, qu'on n'a pas la même philosophie, mais que je suis un adversaire, un ennemi, plutôt, puisque dans leur vocabulaire, c'est plutôt un rapport ami-ennemi. Je suis un ennemi plutôt honnête, quoi. D'autres, en revanche, et puis certains, tout simplement, font de la politique aussi au sein du Front National. C'était notamment manifeste chez les maigrettistes, ils n'avaient pas la même attitude avec la presse. C'est-à-dire que les maigrettistes font davantage de la politique, en ce sens qu'eux aussi savent que la presse, les médias, c'est un instrument utile pour avancer, progresser, etc. Donc, à la rigueur, ils donnaient davantage d'informations, ils essayaient de nous utiliser davantage, et d'ailleurs de nous manipuler davantage. C'est aussi en ce sens qu'ils sont sans aucun doute plus dangereux pour les médias, parce qu'ils savent beaucoup mieux user des médias que de la plupart des lepenistes, qui eux, effectivement, prêchent de façon violente et avec lesquels il est beaucoup plus difficile d'entretenir un dialogue professionnel et un échange d'informations.
Justement, tu es journaliste à Libé, tu es en charge de la question du Front National principalement, si j'ai bien compris. Quelle liberté de traitement tu as dans ce journal-là ? Parce qu'on parlait tout à l'heure de Michel Soudet, qui était anciennement, qui occupait à peu près les mêmes fonctions que toi, si j'ai bien compris, mais au Parisien, et à qui dont le Parisien s'est séparé, parce qu'il ne partageait pas son approche journalistique de la chose, et qui nous expliquait, quand il est venu dans notre émission, que le Parisien, le traitement du Front National, s'était transformé en une forme de porte-micro, où on ne faisait plus qu'interviewer tel ou tel responsable du Front National ou du Mouvement National, et qu'il n'y avait plus d'analyse de fond, d'analyse critique. Quel champ, toi, tu as journalistique en tant que journaliste à Libé ?
Effectivement, la différence, je pense, pour moi, c'est beaucoup plus facile, parce que c'est beaucoup plus facile que pour Michel, ce que Michel faisait au Parisien, pour une raison simple, c'est que le lectorat de Libération et l'électorat du Front National sont radicalement différents. Il n'y a pas de cercle commun entre les deux. À partir de là, c'est plus facile en sens que j'ai une totale liberté pour faire à peu près ce que je veux, comme je veux, sans me retrouver, par exemple, avec le lectorat du Parisien. Il y a forcément des gens qui votent Front National dans les gens qui achètent le Parisien. Et c'est évidemment quelque chose que la direction du Parisien a en tête. Libération, si j'ai une telle liberté pour traiter le Front National et que je peux faire ce que je veux, c'est que je prêche des convaincus, si j'ose dire. Et c'est bien pour ça que j'essaye de ne pas prêcher. C'est bien pour ça que j'essaye de ne pas faire des papiers militants, parce qu'en plus, je pense que ce n'est pas le rôle d'un journaliste. J'essaye d'expliquer la réalité, la vérité de ces gens-là, et la vérité de ce parti, la réalité de ce parti, ce qu'il charrie comme valeur, etc., et ce que c'est, vraiment. Pour autant, je ne fais pas des papiers militants insultants sur parce que ça serait trop facile et ça serait inutile et ça dénaturerait la nature de mon boulot. Mais c'est vrai que je jouis sans aucun doute d'une liberté, d'une facilité beaucoup plus ample à Libération que je pourrais l'avoir dans un média plus populaire du type comme le Parisien ou sur une chaîne de télé comme TF1 par exemple, où il y a évidemment parmi les millions de téléspectateurs qui regardent TF1 des millions d'électeurs du Front National. Et effectivement, c'est beaucoup plus dur, je pense, dans ce cadre-là, de travailler sur l'extrême droite.
Alors là, il ne nous reste pas beaucoup de temps avant de terminer. On pourrait peut-être dire deux mots, justement, donc, de la suite de ce livre, c'est-à-dire le résultat des élections. Moi, j'aurais voulu commencer par une question qui nous concerne un peu, puisqu'on est tous militants ici antifascistes. Dans cette crise et dans l'affaiblissement relatif, mais affaiblissement du Front National après ces élections, est-ce qu'on peut mesurer l'impact des mouvements militants contre le Front National, tel qu'on a vu Strasbourg, tel que les réseaux qui se développent, et je ne parle pas seulement de Ralfront, est-ce qu'il y a moyen d'imaginer si c'est l'impact de l'existence de ces réseaux ?
Moi, je pense que ces réseaux, ces mouvements ont eu en tout cas une grande importance, une grande utilité. Peut-être pas tant sur le recul arithmétique d'aujourd'hui de l'extrême droite, que sur la façon dont ça a maintenu l'extrême droite, le Front National, dans un ghetto. Je pense que les mouvements anti-FN du type Ralfront ont eu et ont toujours une grande utilité, en ce sens qu'ils soulignent, qu'ils témoignent de la spécificité du Front National, du fait que ces gens-là, que ce parti-là ne fait pas partie de la sphère républicaine, que c'est un parti autre, différent, avec lequel, par exemple, il est inconcevable de s'allier si on est un authentique responsable politique républicain. Ce qui n'empêche pas un certain nombre de dérapages, de dérives, de gens qui sont vendus, c'est clair. Mais je pense que si jamais les mouvements anti-front qui existent maintenant depuis une quinzaine d'années n'avaient pas existé, on aurait peut-être déjà eu depuis bien longtemps une alliance en bonne et due forme nationale sur l'ensemble du pays entre la droite et l'extrême droite.
Alors, juste pour terminer, on a eu des élections. Il y a des interprétations qui divergent. Est-ce que c'est un affaiblissement conjoncturel du Front National ou des Fronts Nationaux ? Parce que je pense qu'on ne peut pas l'interpréter autrement qu'en accumulant les deux scores de Le Pen et de Maigret. Est-ce que c'est conjoncturel ? Est-ce que c'est un véritable affaiblissement ? Est-ce que les chasseurs, qu'est-ce que c'est ? Pasqua de Villiers, qu'est-ce que c'est ? Comment tu interprètes ça, toi ?
On a si souvent prophétisé la disparition ou le recul de l'extrême droite à tort, que ce soit les journalistes, les observateurs politiques, les adversaires politiques, que et à tort, en se trompant à chaque fois, que cette fois-ci, moi, je suis quand même relativement optimiste. C'est-à-dire, je pense qu'il y a le recul arithmétique, bon, évident que tout le monde a vu, même en additionnant les deux, il y a un recul arithmétique. Surtout, ce qui est intéressant, c'est dans le bouquin, j'essaie de montrer justement que la complémentarité des deux faisait fonctionner, faisait avancer le Front National. D'un côté la tête, de l'autre les jambes. Vraiment, Le Pen et Maigret ensemble, c'était une machine qui fonctionnait redoutablement bien parce que chacun des deux se complétait. Autant la séparer, et on l'a vu tout au long de la campagne des européennes, ça ne marche plus. Alors il y a une perte électorale. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont depuis maintenant plus de 6 mois, et ils sont toujours, après les élections, dans une logique de combat l'un contre l'autre. De combat. Ils sont toujours presque dans une logique interne. C'est-à-dire que le principal motif de satisfaction des lepenistes aujourd'hui, c'est évidemment pas leur score de 5,7. Ils s'attendaient à faire quand même beaucoup plus, ne serait-ce que 8-9. C'est le fait que Maigret n'ait pas franchi 5% et qu'il soit à 3,3. Le principal motif de satisfaction des maigrettistes quand on les interroge depuis le 13 juin, c'est évidemment pas leur score décevant parce qu'ils espéraient bien franchir la barre des 5%, mais c'est que Le Pen est chuté du niveau grosso modo de 15% qu'il atteignait à chaque élection ou des 10,5% qu'il avait atteint aux dernières européennes à là où il est, à 5,7. D'autre part, c'est vrai qu'aujourd'hui, chez Le Pen, il n'y a plus grand-chose, globalement, comme cadre, comme successeur, il n'y en a pas. Donc le contenu politique des 5,7% qu'a recueilli Le Pen aujourd'hui n'a pas du tout la même nature que ce qu'était cet électorat et cette force politique il y a quelques années. C'est sûr que celui des deux qu'il faut, à mon avis, continuer de surveiller comme le met sur le feu, c'est sûrement Bruno Maigret, parce que, pour des raisons biologiques aussi, je sais pas, il a 20 ans de moins, il a les cadres, il a, etc. Mais lui aussi se prépare quand même à quelques années un peu difficiles, matériellement et politiquement, aujourd'hui.
Gilles. Petite question sur la liste moins d'impôts. Je sais pas si tu as beaucoup... Moi, j'ai eu quelques petites informations comme quoi le Lascar, qui avait présenté la liste moins d'impôts, qui a fait un affichage
Nicolas
national.
Miguet.
Ouais, voilà. Qui a fait un affichage national absolument incroyable, était très proche des intégristes, était très proche de l'extrême droite. Est-ce que tu as des infos là-dessus ?
Qu'il soit proche de l'extrême droite, c'est le cas. Alors, c'est un ancien conseiller municipal RPR en fait, de Verneuil-sur-Avre, en Normandie. Et c'est d'abord et avant tout, c'est pas vraiment un politique, c'est d'abord et avant tout un affairiste. Ce qui l'intéresse, c'est de gagner du pognon, pas toujours par des moyens... tout à fait clair lui aussi. Et donc il a par exemple de nombreux services Minitel, il gagne de l'argent avec de nombreux services Minitel, des publications du type vie pratique, enfin qui fonctionnent comme ça. Et pour ça, il est prêt effectivement à nouer des relations avec l'extrême droite et il en a. Par exemple, en 1994, il a racheté le titre du Quotidien de Paris à Philippe Tesson, au moment où le Quotidien de Paris a fait faillite. Et pour essayer de relancer le Quotidien de Paris, il s'est accoquiné, il est en fait assez proche de Dominique Chaboch, qui est vice-président du Front National. Et Dominique Chaboch lui a abonné une partie du Front National, des cadres du Front National, etc., a assuré un certain nombre d'abonnements à Nicolas Miguet pour essayer de relancer le journal. Finalement, ça a échoué, puisque le Quotidien de Paris, c'est plus qu'une feuille qui sert justement à faire la pub des services Audiotel, Minitel et des diverses publications de Miguet. Donc qu'il ait des acquaintances avec le Front, c'est clair. Oui.
Alors l'émission se termine sans vouloir trop faire Madame Soleil, mais les perspectives demain, on va arriver au municipal, on va avoir quoi, un retour en force sur le terrain, le redéveloppement des appareils. Qu'est-ce qui se prépare comme stratégie par rapport à ces prochaines élections ?
Je pense que... Côté Le Pénis, j'avoue que la stratégie du côté Front, elle est assez brinque-ballante et assez... ils vivent un peu au jour le jour quoi, avec la cassette. Bon, ils ont récupéré l'argent, ils ont une cassette pour continuer de vivre au jour le jour. J'ai pas le sentiment qu'il y ait un projet à long terme sur l'avenir, sur la succession, sur les municipales, si ce n'est que de repartir seul encore et toujours au combat, etc. Côté Maigret, côté Mouvement National, on peut penser que son seul salut peut venir de l'extérieur. C'est-à-dire que je pense qu'il va essayer à un moment ou à un autre, et notamment dans la perspective des municipales, de changer de pied et de nouer un stand d'alliance à droite, notamment dans des villes comme Toulon. On a vu l'arrivée de Marchiani sur Toulon, qui est susceptible de réintégrer, par exemple, les Maigretistes dans une, sur une liste municipale. Donc, a priori, Maigret devrait tenter, et c'est, encore une fois, c'est aussi pour ça que lui est intéressant et important de surveiller ses agissements, de changer de pied et d'essayer de trouver de l'oxygène à l'extérieur, du côté de la droite. Mais pour autant, il a deux handicaps quand même certains, outre le handicap, mis à part le handicap matériel évident aujourd'hui. C'est d'une part que sur cette campagne européenne, il s'est retrouvé à la droite de Le Pen. C'est lui qui a fait la campagne la plus violente à l'extrême droite sur l'islamisation, la colonisation de la France, enfin, des choses absolument ahurissantes. Donc il s'est jeté même du côté de la marginalisation où Le Pen essayait de l'enfermer. Eh bien, il s'est jeté dedans aussi tout simplement parce que ça correspond aussi à ses convictions et à celles de ses cadres. Et puis le deuxième gros désavantage qu'il a, c'est qu'évidemment on séduit plus facilement la droite, des hommes politiques de droite, des pans entiers de la droite, on peut les ramener plus facilement dans ses filets quand on fait 15% que quand on fait 3,28%.
Renan, tu avais quelque chose à dire? Non, rien. Donc bah, l'émission se termine, on va passer l'antenne. On vous rappelle donc qu'on recevait aujourd'hui Renaud Delis à propos de son livre « Histoire secrète du Front National » publié chez Grasset. Dont on vous dit plein de bien, et puis vous pouvez retrouver donc Renaud Delis régulièrement dans Libération, puisque c'est toi qui es en charge des questions relatives au Front National.
Absolument.
Voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec Maurice Rachfus. Au revoir tout le monde.
Merci le monde.
Bon soleil. On va se quitter avec un morceau qui s'appelle How Can I Just Tell de ce groupe qui s'appelle Onomatopée, ce groupe mythique quasiment en passe de lettres. Et qui va jouer le 28 juin à 20h au Gambetta 104 rue de Bagnolet. On écoute ça et après on passe le relais aux échos du Capricorne.